L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, êtes-vous prêt à aller dans la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors, on va pencher nos têtes, on va juste remettre ce temps au Seigneur. Père éternel, je viens devant toi ce matin, encore une fois, et je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu parles encore à ton Église. Je te remercie, Seigneur, pour ton intérêt pour nous. Seigneur, tu aurais pu nous laisser dans nos péchés, mais tu t'es déplacé dans la personne de Jésus-Christ et t'as payé pour notre dette de péché. Et je te remercie, Seigneur Dieu, pour ton amour envers ta création, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons te connaître intimement. Et je prie aujourd'hui que, lorsque je vais enseigner ta parole, je prie que vraiment une onction de révélation, un esprit de révélation puisse venir sur chaque personne et qu'ils puissent recevoir ta parole aujourd'hui dans leur cœur, qui va changer leur vie à tout jamais. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, le titre de ce message, c'est « L'exception à la règle ». Et je ne sais pas, certains d'entre vous, la majorité, vous avez été à l'école française, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait mes études en anglais. C'est pour ça, souvent, les expressions québécoises, je réussis toujours à les défaire. Hein? Dans toutes les expressions, c'est comme, faut pas mettre des bâtons dans les roues, c'est quoi ce que je dis? Moi, je disais des bois dans les roues, des choses comme ça, mais je réussis à toujours faire des erreurs au niveau des expressions, mais peu importe, vous arrivez à me comprendre, hein? Gloire à Dieu, en tout cas, j'espère. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, quand des fois je faisais des travaux, je demandais toujours à mon épouse de corriger mes textes, juste pour être sûr là, que c'était à 100% correct, parce que Mathilde, elle, c'est une bolée, puis elle est très intelligente, tout ça. Et elle m'a marié quand même, tout ça. Mais tout ça pour dire que Mathilde, des fois, elle me corrigeait, puis elle disait, ben ça, c'est pas correct. Mais je disais, mais comment ça, c'est pas correct? Ah, ben ça, c'est une exception à la règle. Et en français, ah, ben ça, c'est une exception à la règle. Mais nous autres, en anglais, on n'a pas d'exception à la règle. C'est ça, c'est ça. C'est donc compliqué le français. Hein? Dites-vous amen. C'est des exceptions à la règle. Mais avec vous, j'aimerais vous dire aujourd'hui que même si c'est toutes sortes de choses qui vont se passer dans le monde, pour vous, vous êtes l'exception à la règle. Ça change quand ça arrive à votre tour. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez quelqu'un de béni, vous pouvez soit être jaloux et dire, ah, oh ben, il y a une belle maison, il y a une belle auto, il y a ci pis ça. Moi aussi, j'aimerais ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les gens sont jaloux. Et là, ils vont faire de la médisance, ils vont faire toutes sortes de choses. Mais si vous vous dites, cette personne-là est bénie, cette personne-là est un enfant de Dieu, cette personne-là est aimée de Dieu, bien, ça donne que moi aussi, je suis aimé de Dieu. Moi aussi, je fais partie de cette même famille-là. Donc, au lieu de regarder cette personne-là et d'être jaloux, je veux dire, moi, je suis le prochain en rang. Je suis le prochain en rang pour recevoir la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Il faut changer notre façon de voir les choses. Parce que si on est jaloux, on ne peut pas bénéficier de la jalousie. Mais si on bénit Dieu, quand Dieu bénit quelqu'un, on dit, ben gloire à Dieu, je suis tellement content, Seigneur, que tu bénisses cette personne-là. Et là, Seigneur, il voit notre cœur, puis là aussi, la bénédiction coule sur nous. Alors, ce n'était pas dans mes notes, mais gloire à Dieu, c'est juste pour vous dire qu'on fait l'exception à la règle. Et aussi, même si on sait que Dieu bénit ses enfants, il faut comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des temps mauvais qui sont là présentement et il y a des temps mauvais qui s'en viennent aussi. Si vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez voir que certainement Dieu a prophétisé, les prophètes ont prophétisé que des temps mauvais s'en venaient. Mais pour les enfants de Dieu, nous, on n'a pas besoin d'avoir peur. Moi, si j'étais pas avec Dieu, j'aurais peur. Je pourrais vous dire, si j'étais pas un enfant de Dieu, j'aurais peur de qu'est-ce qui s'en vient. Parce que toutes les prophéties que moi, depuis de ma tendre enfance, je grandissais puis j'entendais parler des choses qui s'en venaient dans le monde. Et toutes ces choses-là, on se disait, ben un jour, ça va arriver. Mais qu'est-ce qui est vraiment spécial, c'est que dans les jours dans lesquels nous vivons, on voit la réalisation de ces prophéties-là. On les voit comme ça, là. Même sous le gouvernement de Barack Obama, on est en train de voir les exaucements, ou en tout cas la réalisation de ces prophéties-là, et c'est vraiment comme incroyable, mais on y croit quand même, parce que Dieu l'avait dit. Et ma mère était au téléphone avec sa belle-sœur, qui est une Américaine, qui habite en Floride, et cette femme-là n'a pas encore donné son cœur au Seigneur Jésus, mais je dis pas encore, parce que je crois qu'elle s'en vient dans la famille de Dieu prochainement. Mais elle était au téléphone avec ma mère, puis elle voit juste le contexte là-bas en Floride, c'est vraiment épouvantable. Les maisons que les gens achetaient ne valent même plus la moitié de ce qu'ils ont payé. C'est grave, là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Et ma tante disait à ma mère, ma grand-mère, en passant, était chrétienne, croyante, est partie déménager au ciel maintenant. Mais Grandma Spinks parlait toujours du Seigneur et des choses qui s'en venaient. Et ma tante a dit à mes parents au téléphone l'autre jour, à ma mère, elle dit, qu'est-ce que ma mère a dit là? C'est tout en train de se produire, hein? C'est en train d'arriver. Elle dit, elle avait raison, ma mère. C'est bon de réaliser avant l'enlèvement de l'Église. C'est bon de le réaliser maintenant. Parce que le Seigneur est en train de préparer une épouse. Et faut comprendre plein de choses avant. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste regarder un petit peu les signes des temps que la Bible nous dit. Et par la suite, on va se réjouir. Parce que nous, Dieu va faire l'exception pour nous. Amen? Alors, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu 24. Matthieu 24, et on va aller au verset 4. Matthieu 24, verset 4. Il n'y a personne qui dort encore? Vous ne dormirez pas du tout? Gloire à Dieu. Amen. On va parler un petit peu les signes des temps et par la suite, on va voir des bonnes choses. Donc, Matthieu 24, verset 4, il est écrit. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. » En passant, je lis dans la Bible du semeur. « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie. » Ils tromperont beaucoup de gens. » Donc, on le sait que dans les temps de la fin, il va y avoir beaucoup de séduction dans le monde. Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. » Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bien, ça fait longtemps qu'on entend parler de guerre. Il y en a toujours eu des guerres. Et Jésus a dit, c'est vrai, ça dit, cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, en effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Avez-vous remarqué l'accélération de famines et des tremblements de terre? On voit ça partout, aux nouvelles. Si vous écoutez les nouvelles et si vous écoutez le bon poste de nouvelles, ça s'appelle FOX. C'est des nouvelles un petit peu plus vraies que ce que vous entendez ailleurs. Mais c'est en anglais. Fox News. Mais je ne fais pas de promotion. En effet, on verra se dresser. Bon, je viens de le lire. Verset 8. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera, on vous mettra à mort. Il y a personne qui dit gloire à Dieu pour ça, hein? Savez-vous, au Canada, on est super bénis. On est super bénis parce qu'ici, nous sommes protégés. Mais en Chine, c'est terrible. Il y a beaucoup de croyants qui sont persécutés. Ils doivent se cacher pour être croyants, pour croire en Jésus. Verset 10. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Donc, il va y avoir une apostasie. Les gens vont se détourner de Dieu parce que ça va être trop difficile. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Les faux prophètes aujourd'hui qu'on voit beaucoup au Québec, c'est ceux qui sont vraiment ancrés dans cette pensée que nous sommes tous des dieux. Avez-vous entendu parler de ça? Nous sommes tous des dieux. Et au lieu de diriger les gens vers Dieu qui peut sauver, les gens se tournent vers eux-mêmes et on ne peut pas se sauver soi-même. Donc on passe à côté le vrai Dieu. Il y aura de nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On va voir les gens faire toutes sortes de choses. Ils n'auront pas d'amour les uns pour les autres. Ils vont être froids. Verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin ou jusqu'au bout sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. En passant, on ne croit pas dans la fin du monde. Dieu a créé la terre va être rénovée par le feu, la Bible dit, mais on ne parle pas ici d'une fin du monde, on parle de la fin du monde comme nous comprenons aujourd'hui, comme nous voyons la fin de la guerre, la fin des choses horribles. Le Seigneur Jésus va amener de l'ordre dans toutes ces choses-là, si nous croyons la Bible. Si nous croyons la Bible, nous croyons ce que Jésus a dit. Et la bonne nouvelle, on sait qu'il y a toutes sortes de choses terribles. On voit les signes des temps, on peut écouter la télévision. Et si nous sommes un enfant de Dieu et on écoute ça et on oublie qu'on est un enfant de Dieu, on peut commencer à avoir peur, vivre de l'anxiété et commencer à être troublé, mal dormir la nuit. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Dieu nous a annoncé à l'avance, il nous a averti, voici les choses qui vont venir. Mais là, une bonne chose qu'on doit comprendre, c'est que malgré les choses qui s'en viennent, et on comprend également que après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir ce qu'on appelle la grande tribulation, des choses terribles qui vont arriver dans le monde, et c'est le moment où ceux qui ont rejeté Dieu vont subir la colère de Dieu. Mais encore une fois, pour l'enfant de Dieu, je vais vous inviter à tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Il est écrit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous ne sommes pas destinés à la colère. Dites-vous « Amen » à ça. Donc, si nous ne sommes pas destinés à la colère, nous ne passerons pas à travers la tribulation. Nous ne passerons pas à travers les choses horribles qui s'en viennent sur la terre. Parce que pour ses enfants, Dieu va faire l'exception à la règle. Pour ses enfants, Dieu a une provision. Vous avez déjà lu le livre, sûrement, l'histoire plutôt de Noé et sa famille. Comment Noé et sa famille ont été protégés du déluge qui s'en venait. Mais pareillement, pour les enfants de Dieu, nous avons besoin de choisir d'entrer dans l'arche de Dieu. Amen. Et comme nous entrons dans l'arche, nous allons être protégés. Et dans 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16, ça dit, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Moi, je crois dans l'enlèvement de l'Église. On entend très rarement prêcher maintenant sur l'enlèvement de l'Église. Des fois, les gens ont peur parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce que les gens qui sont nouveaux dans la foi, qu'est-ce qu'ils vont croire? On croit littéralement que dans un instant, on va être enlevé, capturé, on va disparaître de cette terre en un instant. Mais si nous croyons la parole de Dieu, Dieu a dit justement ça, que le Seigneur était pour venir chercher ses enfants parce qu'il les aime et veut les protéger des choses qui s'en viennent. Donc, une des choses qu'on doit comprendre ici concernant l'enlèvement de l'Église, c'est que le Seigneur, dans sa bonté, a prévu de nous avertir des choses qui s'en viennent. Comme ça, quand on écoute les nouvelles, on écoute des histoires sur Obama, toutes les choses, le socialisme qui est en train de s'infiltrer aux États-Unis, on écoute ces choses-là, on peut avoir une paix dans notre cœur. Et au lieu d'être inquiet, on peut se réjouir. On peut se réjouir et dire, Seigneur, tu t'en viens chercher ton Église. Et je pense que c'est important de garder le focus que le Seigneur ne nous a pas oubliés, que le Seigneur nous aime, que le Seigneur a une provision pour ses enfants. Amen. Donc, c'est important de croire dans l'enlèvement de l'Église. C'est important de se rappeler que le Seigneur nous a promis qu'il serait là pour nous et qu'il viendrait nous chercher, qu'il viendrait nous épargner. Et là, je vais lire un autre texte en Proverbe, toujours encore en parlant des temps mauvais. En passant, vous savez, je ne veux pas passer une heure à vous parler des temps mauvais parce qu'on a juste à écouter une nouvelle et on les voit. Hein? On entend parler de ces choses-là. Mais ici, on parle la terreur à venir sur les inconvertis. Proverbe chapitre 1, verset 27. Proverbe chapitre 1, verset 27. Ça dit, « Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, parce qu'ils vont avoir appelé en retard. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, en parlant de la science de Dieu, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et se rassasiront de leurs propres conseils. » Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Amen. Verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Ça, c'est pour nous, enfants de Dieu. Mais je vais relire verset 23. Celui qui m'écoute, ça c'est pas juste écouter ou entendre un message, c'est écouter, c'est de saisir le message et dire oui Seigneur, j'accepte ce message. Oui Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux te donner la place dans ma vie pour agir. Je veux me soumettre à ta volonté. Lorsque nous disons oui Seigneur et nous écoutons la voix de Dieu, là c'est dit celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mais gloire à Dieu, ça c'est la provision pour les enfants de Dieu. Alors, vous avez survécu cette partie plus difficile? Amen. Une personne. Les autres, là, on va prier pour vous. Maintenant, on va voir l'appel exceptionnel pour les enfants de Dieu. On va aller dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9. Ici, le contexte, ça nous parle de ceux qui rejetaient la pierre principale, qui est Christ. Ici, ça dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Je vais revenir à ce texte. Je veux juste vous dire, quand l'Église va être enlevée, savez-vous déjà, les explications sont déjà préparées. J'écoutais des enseignements l'autre jour, et puis il y avait, c'est des enseignements chrétiens, mais ils parlaient que certaines personnes, des médiums, commençaient à donner des messages provenant des extraterrestres. OK? Je crois pas dans les extraterrestres. Ne comprenez pas mal, là. Mais ces gens-là disent recevoir des messages des extraterrestres. Et là, ils sont en train d'écrire des livres. Et puis les gens sont là, ils dictent des livres comme ça. Et dans ces livres-là, ça dit que bientôt, très bientôt, les extraterrestres vont venir chercher les gens qui sont arriérés dans leurs pensées. Ils vont venir chercher les extraterrestres, les extraterrestres vont venir chercher les gens arriérés dans leurs pensées. Et puis, ils vont être enlevés ailleurs pour les recycler. OK? Ça, c'est le message et c'est véhiculé dans des livres. Là. Aujourd'hui, peut-être que vous pouvez aller dans des librairies chrétiennes et les gens vont, pas les chrétiennes, dans des librairies dans le monde et puis ils vont déjà vous donner des explications pour qu'est-ce qui s'en vient. Parce que l'ennemi n'est pas fou en même temps. L'ennemi sait qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il prépare le chemin. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui croient dans les extraterrestres maintenant. Parce que les gens, ils vont avoir une explication plus tard. Mais si on croit que Jésus, il dit vrai, et Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, bien, on va croire qu'est-ce qu'il nous dit. Amen. Donc, on croit Jésus. Là, je vais relire ce texte, 1 Pierre 2,9. Ça dit, concernant toutes les choses, ceux qui rejettent Christ, qui rejettent la pierre principale, bien, eux, ils ont toute une destinée. Mais, ça dit, vous, au contraire, dites au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est mon appel, c'est votre appel. Vous êtes appelé de Dieu pour annoncer les bienfaits de Dieu. Vous êtes appelé de Dieu pour goûter à la bonté de Dieu. Vous êtes appelé pour vivre la vraie vie chrétienne, la vie en abondance. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre appel. Et savez-vous, moi j'ai tellement trippé sur ce verset-là que j'ai décidé de le regarder dans 4 versions. Alors, vous allez subir la lecture de ce verset-là dans 4 versions. Juste, ça va venir imprégner, là, ça va s'imprégner dans votre cœur. Amen? Bon, on va le relire. Parce que c'est un bon verset. Moi, j'aime ça, me nourrir des paroles encourageantes de Dieu. Ça dit, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce qui est merveilleux à remarquer ici, là, c'est qu'on est appelé pour publier les hauts faits de Dieu. Ça veut dire on va passer notre temps à parler du bon Dieu et on va parler comment Dieu est bon. Voyez-vous, ça, c'est la caractéristique de ceux qui sont appelés de Dieu. Ils vont parler en bien du bon Dieu. Ils vont parler comment Dieu est bon, comment Dieu fait des grandes choses dans leur vie. Ils vont parler, regarde les étoiles, c'est mon Dieu qui a créé tout ça. Dieu est grand, regardez la nature, regardez les montagnes, c'est mon Dieu qui a fait ça. Mon Dieu est magnifique, mon Dieu est glorieux. Et les scientifiques, ils font des études et puis ils découvrent toujours des nouvelles galaxies. Oh, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand, mon Dieu est glorieux. Et puis mes problèmes sont tellement minuscules quand je les compare à la grandeur de Dieu. Oh, c'est merveilleux, je sers un grand Dieu, je publie ses hauts faits. Et pendant longtemps, on a entendu les chrétiens publier les œuvres de Satan et puis ils ont attribué ça à Dieu. Et on dit, ben, Dieu m'a envoyé ici, Dieu m'a envoyé ça. Dieu m'a envoyé un petit cancer, Dieu m'a envoyé un accident d'auto, Dieu m'a volé mes enfants, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Non. N-O-N. Faut défendre notre Dieu, savez-vous ça? Faut arriver à cette place où on va se tenir et défendre la réputation de notre Dieu. Et dire, non, c'est pas Dieu qui vient voler, égorger et détruire. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Mais je peux vous dire, le courant, qu'on prêche ici, je peux vous dire, il y a de l'opposition dans le monde spirituel. Parce que pendant trop longtemps, le bon Dieu au Québec a été un mauvais Dieu. C'est un Dieu méchant qui enlève des enfants, qui tue du monde jeune avant leur âge. Et il fait toutes sortes d'atrocités. Mais la Bible nous dit que cette nation sainte, cette nation-là va publier les hauts faits de Dieu. C'est ce qu'on va faire ici. Ça vous dérange qu'on prêche que Dieu est bon? Vous n'êtes pas à bonne place. Mais ici, vous allez entendre dire que Dieu est bon et que Dieu a des bons plans pour votre vie. tes projets de paix et non de malheur. Amen. OK, on vient de lire la Bible du Semeur. On va voir maintenant dans le français courant. Mais vous, vous êtes la race choisie. En passant, tous ceux qui acceptent d'être sauvés, tous ceux qui acceptent d'être en Christ, la Bible nous dit que nous sommes prédestinés à la gloire. Donc, nous sommes en Christ parce que nous avons choisi de donner notre vie au Seigneur. Donc, automatiquement, nous sommes élus parce que nous sommes dans celui qui est élu. Amen. Donc, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez les œuvres magnifiques de Dieu. Les œuvres magnifiques, c'est ça votre job. Votre job, c'est des porte-paroles du Seigneur et de dire comment il est bon, comment il est grand. Là, je vais lire dans Parole de vie. Amen. Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté de prêtres du roi, des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple de Dieu, que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. N'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous ici, quand on prend 4 versets, finalement, on peut le digérer et comprendre que finalement, Dieu veut qu'on puisse, Dieu désire qu'on lui fasse une belle publicité. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut que ses enfants parlent bien de lui. Comme moi, mes filles, j'espère qu'ils parlent en bien de moi, en privé, avec leurs amis. Hein? C'est la même chose. Nous, on est les enfants du bon Dieu. Donc, on veut parler en bien de lui et dire comment il est merveilleux. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup de ses enfants ne font pas ça, et beaucoup de ces enfants ne profitent pas vraiment de l'héritage qu'ils ont en tant qu'enfants de Dieu. Et la triste réalité, c'est que beaucoup de croyants vivent des vies ordinaires. Ordinaires. Mais, j'ai un mais là-dedans. Mais je me réjouis parce que beaucoup de personnes ici, vous avez saisi par la foi que Dieu ne veut pas que vous marchiez une vie ordinaire, mais une vie extraordinaire. Dieu veut que ses enfants puissent vraiment saisir cette promesse, cette vérité-là, que c'est une vie en abondance. Et on n'est pas appelé à vivre des choses normales et ordinaires. Ce matin, s'il y a une chose que vous vous rappelez, c'est que Dieu va faire l'exception pour vous. L'exception, c'est pour vous ce matin. Rappelez-vous de ça. L'exception, c'est pour vous. Même s'il y en a 10 000 qui passent à travers des choses horribles, pour vous, Dieu va faire l'exception. Pour vous, vous savez, je me rappelle de l'histoire de Corrie ten Boom. Vous connaissez cette histoire-là, cette femme qui était dans les camps de concentration parce que justement, elle voulait protéger des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, elle chérissait son Nouveau Testament qu'elle avait avec elle. Et puis, elle était dans le camp de concentration, elle a passé à travers une épreuve horrible, mais elle avait son Nouveau Testament ou sa Bible cachée ici. Et puis là, c'était défendu d'avoir une Bible. Il voulait lui enlever plutôt. Et pendant qu'il était en rang avec les soldats nazis, il était en train d'inspecter les gens. Et puis elle priait le Seigneur. Elle dit, Seigneur, je veux garder cette Bible. Je veux garder ta parole. Je veux garder ta parole. Et puis là, comme elle passait devant les officiers ou en tout cas les soldats nazis, tout d'un coup, ils ont commencé à être distraits par d'autres choses. Et puis elle a pu passer comme ça et garder sa Bible. Parce que Dieu a fait une exception pour elle. Amen. Si on aime le Seigneur et puis si on relâche notre foi puis on prie au Seigneur, Seigneur, Dieu va le faire pour nous. Amen. La réalité, OK, beaucoup dans le corps de Christ, on va parler un petit peu de la réalité et qu'est-ce que Dieu veut faire là-dedans. Dans Proverbe 13, verset 12, il y a beaucoup de croyants qui sont découragés. Beaucoup de croyants qui sont découragés. Mais c'est temps que ça l'arrête, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est temps que ça l'arrête. Si vous êtes découragé, vous allez sortir de cette place encouragé au nom de Jésus. Mais moi, je ne peux pas choisir pour vous, c'est vous. Vous devez choisir pour vous. Vous devez choisir et mettre votre vie dans la position où vous allez être encouragé de Dieu. Savez-vous, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous entendez toujours un message comment vous êtes des moins que rien, vous n'allez pas être encouragé. Vous ne serez pas encouragé. Révélation. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est important. Protégez vos oreilles. On dirait des fois, les chrétiens acceptent que leurs oreilles deviennent des dépotoirs. C'est qu'on accepte d'entendre toutes sortes de mensonges sur Dieu, toutes sortes de choses, des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. On se laisse bourrer le crâne avec des mensonges. Puis là, on est découragé, puis on se demande pourquoi. Mais Dieu nous dit, faites le ménage en 2011. En 2011, moi, je vais croire Dieu, je vais croire sa parole et je vais t'encourager. Je vais t'encourager en Dieu. Dans Proverbe 13, verset 12, il est écrit, un espoir différé rend le cœur malade. Ça veut dire que c'est quelqu'un, ça fait longtemps que cette personne-là attend pour vivre cette percée. Ça fait longtemps que cette personne a un rêve. Elle attend. Et puis, ça continue. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli, ou dans la Bible du Sommeur, c'est-à-dire un désir exaucé, est un arbre de vie. Le Seigneur, si vous a donné un rêve dans votre vie, si vous a donné une vision pour votre vie, c'est bien d'attendre. C'est bien d'attendre le moment de Dieu. Parce que quand on n'attend pas, quand on se précipite dans des choses, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va mettre au monde des Ishmaël. C'est pas bon, ça, en passant. On va mettre au monde des Ishmaël. Mais si on attend le temps de Dieu, on est prêt à être patient, et quand Dieu nous relâche, on rentre dedans, là on est béni. On est béni et on est heureux. Je vais le relire. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Cette année, Dieu veut vous accomplir. Il veut faire en sorte que les projets qu'il a déposés dans vos cœurs soient accomplis. Peut-être vous êtes dit, oui, mais mon projet, ma vision est tellement grande. Mais il va commencer à une place, il va accomplir des portions de cette vision-là jusqu'à temps que ça arrive à terme, si vous restez dans le programme de Dieu. Restez avec son programme. Si Dieu vous promet des choses, il va l'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Donc, ne soyez pas découragés. Cette année, dites, Dieu fait l'exception pour moi. Moi, je ne serai pas découragé. Une autre chose qui vient voler les enfants de Dieu, l'inquiétude. Proverbe 12, verset 25. Proverbe chapitre 12 et le verset 25, ça dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Vous savez, là, l'ennemi peut venir vous voler. Il peut venir vous voler par les choses qui trottent dans vos têtes. Et là, vous donner des craintes, semer la crainte dans vos vies. Puis là, vous allez marcher cette vie chrétienne. Vous avez un héritage, vous avez toutes les promesses de Dieu qui sont pour vous, oui, amen. Vous avez toutes ces choses-là. Mais vous pouvez passer à côté parce que vous êtes inquiet. Au lieu d'avoir votre focus, votre foi ancrée dans les promesses de Dieu sur une base quotidienne, vous pensez toujours à qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver de terrible? Qu'est-ce qui peut arriver de terrible à mes enfants? Là, on vit comme si on n'était pas chrétien. On vit comme si on n'avait pas la parole de Dieu. Et c'est trop fréquent quand je rencontre des frères et des sœurs qui me parlent. Puis là, ils me disent toutes les inquiétudes dans leur cœur. Mon cœur est brisé. Puis je peux vous dire même, je priais récemment, puis mon cœur était peiné. Je ressens que c'était le cœur de Dieu. Même un matin, pendant que je louais, je pensais à des choses qui revenaient dans ma tête. Mon cœur était peiné parce que je voyais cette armée de Dieu. Comme je vous ai dit au début de l'année, Dieu m'a montré, il y a une armée qui se lève. Mais la réalité en ce moment, il y en a beaucoup qui sont encore couchés. Une armée qui s'est faite battre. Si on dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, on se fait battre par l'ennemi, on se fait voler par toutes sortes de choses, en permettant l'inquiétude d'entrer dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, moi, je crois, là, si vous avez été tourmenté par la crainte, par ces choses-là, aujourd'hui, c'est votre journée de délivrance. Amen. C'est la journée où vous allez rentrer dans le repos de Dieu. Vous allez mettre votre confiance en Dieu, sachant que Dieu prend bien soin de ses enfants. Amen. Donc, c'est une triste réalité, mais ça dit, le verset, « Une bonne parole le réjouit. » Alors, Dieu a une bonne parole pour vous. Avez-vous besoin d'être réjoui ce matin? On va regarder dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Il est écrit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Et c'est une bonne nouvelle. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, parce que Dieu est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Amen. Dieu nous invite à ce repas, les délices succulents dans sa présence. Moi, ma prière, c'est que chaque personne de cette assemblée, en 2011, que vous puissiez vraiment arriver à cette place d'un repos dans la présence de Dieu. une place de repos, une place de confiance. Même si toutes les choses autour de vous tombent, et là, vous voyez vos voisins vivre des choses, mais vous, vous pouvez avoir la confiance, savoir, Dieu fait l'exception pour moi. Il m'a invité à sa table. Il m'a invité à sa table, et puis je mange les mets succulents. Oh, le monde s'inquiète. Les gens de l'extérieur, ils s'inquiètent, ils vivent des choses. Moi, je suis dans la paix. Oh, c'est la provision de Dieu pour vous. Ne permettez pas à l'ennemi de vous rendre triste, enfant de Dieu. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. On a besoin de marcher dans la joie de l'Éternel. Peut-être que vous dites, ouais, mais toi, tu connais pas ma vie. Regarde, ma vie est plate. Je vais travailler, j'aime pas ça, mon travail. J'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est plate, c'est difficile, tu connais pas ma vie. Oh, mais commencez à louer Seigneur pour votre job. Commencez à louer Seigneur pour les choses plates dans votre vie. Et Dieu va transformer ces choses plates et vont devenir excitantes. Mais ça me tente pas. Et savez-vous, pas merci Seigneur parce que c'est plate, mais merci Seigneur, malgré le fait que c'est plate, je peux te louer. Je l'ai déjà dit, puis je vais le dire encore. Moi, j'ai déjà eu une job plate. Je travaillais dans l'hôtellerie, et puis j'avais quitté l'université pour accepter l'appel de Dieu sur ma vie, pour le ministère. Mais pour vivre, pour manger, je me retrouvais à faire un travail que je trouvais plate. Puis je disais, Seigneur, comment ça? Tu m'as demandé de quitter l'université pour faire les études de l'école biblique. Puis là, je suis prêt à travailler une job que j'aime pas. Puis Seigneur, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il disait rien à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé chez nous, là, je suis arrivé et là, ma femme, elle faisait jouer Joyce Meyer. Et Joyce Meyer disait, autant et aussi longtemps que vous allez chialer pour votre job, Dieu ne vous donnera pas une autre job. Là, moi, je suis rentré, puis là, je venais de faire une journée de travail, puis là, il fallait que j'entende Joyce Meyer me chicaner en plus. C'était pas bien, bien fun, mais j'ai compris ma leçon. Au lieu de chialer à chaque jour puis dire comment je n'aimais pas ma job, j'ai commencé à remercier Seigneur parce que j'avais une job. J'ai dit, merci Seigneur Dieu pour cette job-là. Merci Seigneur Dieu pour les gens qui me tapaient ses nerfs, mais merci Seigneur Dieu pour ces gens-là. Mais c'est vrai, on vit sur la planète. Dieu fait l'exception pour nous, mais on vit encore les deux pieds sur la terre. Donc, il va y avoir des gens qui vont vous taper sur les nerfs. Grande révélation. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Vous allez remercier Seigneur pour ces gens-là. Oh, il y avait un gars tellement pas fin, là. On va dire ça de même. Il était vraiment pas fin. Mais un jour, là, j'étais vraiment spirituel, cette journée-là. J'ai dit, Seigneur, si vraiment, j'ai mis des choses devant Dieu, j'ai dit, transforme son cœur. Là, ce gars-là, finalement, cette journée-là, par miracle, il était fin. Dieu l'a transformé juste pour moi. C'était merveilleux. Donc, on a une bonne parole. Dieu nous invite. Et de pas juste vivre dans notre terre à terre, mais d'avoir notre foi, même dans la job qu'on n'aime pas, et dire, Seigneur, je te loue. Et là, les gens vont dire, mais comment ça, t'es tout le temps joyeux comme ça? Ah, ben, c'est parce que j'ai la joie dans mon cœur. Ma joie ne dépend pas sur cette job-là. Ma joie dépend de Dieu. Et je sais que Dieu a d'autres choses en réserve pour moi. Là, je suis dans cette saison-là. Peut-être je passe un test même. Peut-être Dieu permet que je passe à travers cette chose-là. Et quand je vais avoir gradué, là, je vais avoir une promotion. Alors moi, je me réjouis à l'avance pour la promotion qui s'en vient. Amen. Amen. Mais laissez-vous pas voler par la critique et les murmures, tout ça. Parce que là, ça vous garde dans la job longtemps. C'est vrai. Si vous voulez rester là longtemps, chialez. Amen. Amen. Donc, une bonne parole que Dieu nous donne. Le prix de tout ça, on dit, ben c'est une belle invitation, est-ce qu'il y a un prix? Ben, on vient de lire que sans argent, ça coûte rien. Cependant, dans votre quotidien, ça va vous coûter quelque chose. Dans Proverbes chapitre 1, verset 7, ça dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, la Bible nous parle des gens stupides, savez-vous ça? La Bible nous dit, si on dit, la parole de Dieu, je veux rien savoir, ça vaut rien, mais la Bible dit de vous que vous êtes insensés. Insensé. La crainte de l'Éternel, sauf la crainte, la révérence pour Dieu. Ça veut dire que si Dieu dit quelque chose, on prend la peine et on dit, OK, là, je vais vraiment écouter qu'est-ce que Dieu dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Moi, je me souviens, j'avais un prof qui enseignait la science au cégep qui ne croyait pas en Dieu. C'est un scientifique. Mais il n'y avait même pas le commencement de la sagesse. Même pas le commencement. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et la Bible du Sommeur, c'est la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Donc, une des choses, si vous voulez avoir plus de Dieu dans vos vies, vous voulez vraiment goûter aux aliments que le Seigneur veut vous servir, tout l'héritage du croyant, il y a des lois spirituelles que vous devrez apprendre. Il y a des lois spirituelles. La semaine passée, on a parlé d'une loi spirituelle, on a parlé de l'honneur. L'honneur dans nos vies. l'honneur dans l'Église. Si on passe à côté de l'honneur, même si on fait des choses que Dieu nous demande de faire, admettons, Dieu dit, ben fais ci, fais ça, et on obéit, mais il y a toute une autre dimension dans notre vie qu'on refuse, là, carrément d'obéir dedans, ou de marcher dedans, plutôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est on ne rentre jamais vraiment dans cette dimension de la pleine bénédiction. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble une autre loi spirituelle. Êtes-vous OK avec ça? En passant, si vous n'étiez pas là dimanche passé, c'est super important que vous alliez sur le site et que vous écoutiez cette prédication-là. Ou même, encore une fois, vous pouvez avoir le CD. OK? Donc, une des choses qu'on veut comprendre, OK, c'est que le Seigneur a des choses à nous communiquer. Il y a des lois spirituelles qu'on doit apprendre pour vivre cette vie abondante. Êtes-vous prêt à apprendre ce matin? OK, trois personnes, les autres, vous êtes relâchés, soyez bénis. Êtes-vous prêt ce matin à dire, OK, là, je vais apprendre? OK, c'est bon. OK. Donc, une des choses, avant même d'aller à la loi, on doit être des personnes de foi. OK? Carrément, on peut pas passer à côté. On doit être des personnes de foi. Dans Romains 1, verset 17, ça dit, ici, ça dit, le juste vivra par la foi. Et je vais le reprendre un petit peu plus haut. Ça dit, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Il va y avoir une démarcation dans le corps de Christ. Ceux qui sont de la compagnie de la foi et ceux qui sont de la compagnie du doute. Il va y avoir des gens qui vont dire, mais moi je crois en Jésus, je l'ai accepté dans mon cœur, il a pardonné mes péchés. Mais pourtant, ces gens-là ne vivent pas comme s'ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Vous allez en côtoyer, je peux vous le dire, vous allez en côtoyer de plus en plus, comme les jours vont aller de pire en pire et comme il va y avoir plus de choses dans le monde, il y a beaucoup de croyants qui aiment Dieu. Mais vous allez voir, il va y avoir une différence entre vous et eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont enseignés la foi et il y a d'autres gens qui ne le sont pas. Et la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si on connaît pas qu'est-ce qui nous appartient, on ne connaît pas les armes du croyant et on ne connaît pas les lois spirituelles. Quand l'ennemi, il fait ravage et on sait rien, on sait pas quoi faire, puis on passe avec les autres. Même si Dieu nous aime, on périt quand on connaît pas, quand on sait pas qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. C'est comme quand ma belle-sœur a eu un accident d'auto et le Seigneur m'avait dit, commande ce VHS super roche, commande-le rapidement parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose. Je savais pas qu'est-ce qui s'en venait, mais j'ai commandé ces choses-là, je l'ai écouté et là j'ai été instruit pour savoir quoi faire. Quand ça s'est produit, on savait quoi faire. Amen. C'est la même chose, Dieu veut nous équiper, enfants de Dieu. Êtes-vous prêts à être équipés? Puis c'est tellement merveilleux quand on réalise ces choses-là. Donc, une des choses, on doit faire partie de la compagnie de ces gens de foi. Et ma prière, c'est qu'il y ait plein de compagnies de foi dans cette région et partout à travers la francophonie. On veut que les gens saisissent par la foi les promesses de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est pas assez de dire, oui, Dieu existe, mais il faut croire également qu'il va vous rémunérer, il va vous récompenser lorsque vous relâchez votre foi pour revivre ses promesses. Donc, une des choses, une loi spirituelle ce matin, que plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà, mais c'est important de se rappeler ces choses-là. La vie de l'homme est gouvernée par ses pensées. Une loi spirituelle, super important. La vie de l'homme est gouvernée par ses pensées. Proverbe 23, verset 7, il est écrit, « Car, en parlant de l'homme, il est comme les pensées de son âme. » L'homme est comme les pensées de son âme. Alors, super important, vous écoutez la télévision, vous entendez parler des choses horribles qui se passent dans le monde, et ça s'en vient dans votre région. Un chrétien qui n'a pas été renouvelé par les promesses de Dieu, par exemple, le psaume 91, chaque chrétien devrait méditer sur le psaume 91. Le psaume 103, méditez là-dessus, les promesses de Dieu sont là. Mais admettons, vous êtes un chrétien religieux. Vous allez à l'église, vous entendez un message, c'est bien beau, vous allez manger votre poutine et puis ça vient de s'éteindre. Mais, peut-être vous êtes un chrétien, vous prenez la parole de Dieu puis vous dites, moi je veux que ça soit déposé dans mon cœur, je veux croire cette parole-là. Je suis une personne de foi. Amen. Je vais croire Dieu. Et là, les choses horribles sont annoncées sur votre région. Mais là, tout de suite, le psaume 103 vient à votre cœur. Et là, votre bouche parle de l'abondance de votre cœur. Et là, vous pensez le psaume 103. Vous pensez le psaume 91. Vous pensez pas comment l'horreur s'en vient sur vous. Vous pensez plutôt comment la provision de Dieu s'en vient sur vous. Là, vous commencez à dire, wow, regarde ce que le Seigneur va faire. Mais il y en a des gens qui m'ont dit, ben toi, tu es extrémiste, tu crois vraiment les promesses de Dieu, puis on dirait que c'est comme pour tout le monde. Oui, oui, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui veulent y croire. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui sont protégés. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Je sais, c'est pas tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui croit à Dieu non plus. Vous savez, il y avait un couple d'évangélistes qui allait prêcher aux États, dans un des États. Et puis, leurs enfants étaient ados. Et là, il y avait une tornade qui s'en venait sur la maison. Et les ados avaient resté dans la maison. Les parents étaient partis prêcher quelque part. Et les enfants, ils jouaient, je pense, au Monopoly pendant un temps. Mais comme ils ont entendu dire qu'il y avait une tornade qui s'en venait, tout d'un coup, ils ont décidé, ce serait peut-être une bonne idée de prier. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, au lieu de jouer au Monopoly, ils ont tassé ça et ils ont commencé à prier. Ils ont prié le psaume 91. Ils ont remercié le Seigneur pour la protection divine. Remarquez ça. Toutes les maisons dans le voisinage ont été totalement détruites, mais leur maison était la seule qui avait été protégée. On voyait ça, même j'ai vu ça sur vidéo, on voyait, et là, les jeunes, c'était des ados qui étaient là, peut-être qu'il y en avait un d'adulte, là, mais c'était des jeunes adultes. On voyait toutes ça, les maisons détruites autour d'eux, mais leur maison n'avait même pas été touchée. Il y avait eu une branche qui avait craqué sur l'arbre. Ça, c'est ça qu'ils ont dit, il y avait une branche de craqué. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Hein? On peut bien vivre avec une branche de craqué. Mais tout ça pour dire, moi je crois que les promesses de Dieu sont vraiment pour nous. Mais je peux vous dire, beaucoup de personnes disent, c'est bien beau, c'est bien beau, mais. Mais il faut que ce mais soit un oui, amen. Puis je sais, vous allez commencer à croire, si là, vous commencez à croire vraiment les promesses de Dieu, les gens vont commencer à vous trouver spécial. Parce qu'ils vont dire, mais coudonc, tu te prends-tu pour un autre? Je me prends pour un enfant de Dieu. Moi je fais partie de cette nation sainte. Je suis un peuple choisi, choisi de Dieu pour proclamer les hauts faits de Dieu. Mais ma foi doit être dans les hauts faits pour les vivre et pour en parler. Si on vit jamais de hauts faits, c'est difficile d'en parler des fois. Mais si on vit les hauts faits de Dieu, on voit la protection de Dieu. Moi, j'ai vécu tellement de choses dans ma vie. J'étais en route vers un mur de roche. On était sur un chemin au Nouveau-Brunswick. Je m'en allais prêcher. Et puis mon véhicule s'en allait vers ce mur de roche-là. Et Mathilde et moi, on a crié « Jésus! » On a fait une très belle prière. Jésus, mon auto s'est littéralement déplacé et comme ça, on a continué notre chemin sans rentrer dans le mur. C'est merveilleux la provision que Dieu a pour ses enfants. Oui, mais tente, j'allais dire un nom, tente quelque chose. Je ne saurais plus, un jour on va avoir une personne qui s'appelle ce nom-là, ça veut dire arrêter, là. Mais ma tante, mon oncle qui n'a pas vécu ça, lui, regarde qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Oui, puis ça et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, mais des fois, on se fait voler parce qu'il y a tellement d'exemples autour de nous, les gens qui n'ont pas vécu les promesses de Dieu. Où est votre foi, enfant de Dieu? Dans les expériences autour de vous ou dans la parole de Dieu? Si notre foi est dans la parole de Dieu, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi tante Gertrude n'a pas eu la réponse à sa prière, bien vous, vous faites croire quand même et dire, je comprends pas, je peux pas te l'expliquer, mais je crois la Bible quand même. Je crois Dieu quand même. Puis on laisse les mystères à Dieu, on va croire Dieu quand même. Amen? Mais Dieu se cherche une compagnie de foi. Des gens de foi qui croient plus Dieu que les traditions, plus Dieu que leurs idées. OK? Si vous pensez comme le monde, vous allez passer comme le monde dans les choses du monde. Mais on vient de lire Proverbe 23, verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Donc, obligatoirement, Dieu nous appelle à avoir une pensée ancrée dans la foi. Donc, une des choses qu'on doit voir ici, là, on doit renverser des forteresses dans nos pensées. On va aller ensemble rapidement. J'ai pratiquement fini. Il me reste juste 4 pages. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Ça dit même, mais ça dit pas même. Moi, je l'ai rajouté dans mon texte juste pour vous aider à comprendre. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair ou selon la chair. Voyez-vous, on est tous des êtres humains. On vit dans la chair. Là, au verset 4, ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. C'est quoi des forteresses? C'est quoi ça? Des forteresses, c'est simplement des choses dans nos têtes qui nous empêchent de recevoir de Dieu. C'est des forteresses, c'est comme des châteaux qui sont là et ils disent, non, les promesses de Dieu sont pas pour vous. C'est des forteresses. On renverse les choses qui ne sont pas de Dieu. Verset 5, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, on les renverse ces raisonnements-là. et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, donc la parole de Dieu, toutes ces choses-là. On veut être transformé par le raisonnement divin. Ça, c'est un verset que vous allez entendre souvent ici. Vous l'avez déjà entendu souvent. Puis là, je l'ai mis dans 4-5 versions, mais je ne les lirai pas. Mais Romains 12, 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous me laissez le lire juste dans une autre version? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voyez-vous, on a besoin ici, moi j'aime vraiment comment c'est dit ici, laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Laissez Dieu le faire. Comment? C'est quoi le prix de tout ça? Le prix, c'est du temps, comme on a dit d'autres fois, mais c'est de prendre le temps dans la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, comme nous entendons, on est à la maison, on écoute un enseignement sur, peu importe le besoin, si vous avez des problèmes financiers, écoutez une série qu'on a sur notre site gratuitement, l'économie de Dieu. Vous êtes malade, écoutez la série sur la guérison divine. Vous avez des problèmes avec dans vos relations peut-être interpersonnelles, écoutez la série sur les racines dans la vie des gens. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez nourrir votre âme. Comme ça, vous vous nourrissez, vous croyez la parole de Dieu, puis c'est merveilleux. Mais il faut laisser le Seigneur modeler notre intelligence. Ici, c'est au verset, le même verset, mais dans la Bible du Sommeur, c'est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Wow, je suis vraiment pas rendu loin, mais vous me donnez encore 5 minutes? Un appel exceptionnel. Amen. Je vais relire le texte de tantôt. 1 Pierre 2,9, c'est dit, vous êtes le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Amen. Amen. Donc, une des choses qu'on doit voir ensemble, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe 55, verset 9. On va juste prendre quelques moments encore ici. Les choses qui volent les croyants, les choses qui vont vous voler dans la tradition des hommes. Une des choses qu'on doit faire, des fois, pour entrer dans la terre promise, on doit tuer les vaches sacrées dans le corps de Christ. Tuer les vaches sacrées. Les choses qui sont là, que tout le monde croit, tout le monde accepte ça comme si c'est du... Quand on dit ça en québécois, là, je vais l'avoir. On prend tout pour du cash. Hey, joli! On prend tout pour du cash. Quelqu'un le dit, on y croit. Hein? On y croit. Tout le monde croit ça dans l'Église. Oh, ben, remarquez bien. Ici, là, on a un appel exceptionnel sur notre vie, une provision exceptionnelle, mais il y a des mythes qui circule. Le mythe présent qu'on va voir aujourd'hui. OK. Dans Ésaïe 55, verset 9, c'est la parole de Dieu et c'est vrai. Mais après, on va comprendre une chose dans la Nouvelle Alliance. Ici, dans Ésaïe 55, verset 9, ça dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Amen. Les pensées de Dieu sont élevées. Amen. Et sont au-dessus des pensées de l'homme. Amen. Vous croyez ça? Mais là, les chrétiens disent, bof, je sais pas qu'est-ce que Dieu veut là-dedans. Je sais pas. Ses pensées sont au-dessus de mes pensées. Les voix de Dieu sont mystérieuses. Et puis, oh Seigneur, fais ci, fais ça, on prie. Seigneur, si tu veux sauver mon enfant, voudrais-tu le sauver? Si tu veux pas, je comprends là, mais on prie des prières absolument ridicules des fois. J'entends ça, c'est comme, mais comment ça les gens connaissent pas le cœur de Dieu? Comment ça on prie des prières tout croche que Dieu ne peut pas répondre? Là, après, les gens, ils disent, ben, j'ai pas le goût de prier, Dieu répond jamais. Mais c'est sûr, quand on prie des prières tout croche, que Dieu ne peut pas répondre. Mais, allez suivre le cours de notre sœur Annabelle, vous allez voir. Amen. OK. Donc, ça, c'est un mythe qu'on ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 2, verset 16, il est écrit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Comment ça? Parce que nous avons sa parole. Nous pouvons être renouvelés dans notre intelligence par la parole de Christ. Nous pouvons être renouvelés. Amen. Et là, quand nous prions, nous pouvons connaître sa volonté sur des sujets particuliers. Et même si oui, les voix de Dieu sont au-dessus des nôtres, heureusement, Dieu choisit de se révéler à ses enfants pour qu'on puisse connaître ces choses-là et comment prier. Par exemple, 2 Pierre 3,9. Si votre enfant a besoin d'être sauvé, c'est dit, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Donc, il y a quelqu'un dans votre famille qui n'est pas sauvé. Vous pouvez prier avec foi. Seigneur, sauve cette personne avec foi. Seigneur, touche cette personne par ton Saint-Esprit. Attire cette personne à toi. Vous priez avec foi. Amen. Amen. Là, vous dites, ouais, mais là, tante Gertrude est malade. J'ai changé de nom. Tante Gertrude est malade. On va prier, Seigneur, si c'est ta volonté, que tu la guérisses. Oh, mon doux. Si vous avez de la misère avec ça, qu'est-ce que je vais dire? Je prends deux secondes aujourd'hui, mais je vous invite, au nom de Jésus, à aller écouter la série « La guérison divine ». C'est quatre cours sur la guérison divine, parce qu'on adresse les chairs dans la chair de l'apôtre Paul, on parle de Job, on parle de toutes ces choses-là. Ne fermez pas votre cerveau à ce que je vais lire. Le psaume 103, ça dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ». Vous croyez ça ce matin? Et est-ce qu'il vous pardonne de toutes vos iniquités? Vos péchés, est-ce qu'il dit « Ben certains péchés, je peux pas les pardonner ceux-là ». Non. Il pardonne toutes vos iniquités. Amen. Là, c'est la partie, la deuxième partie, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Ouais, mais une théorie, une théologie qui va s'installer là-dedans. Ouais, mais toutes les raisons pourquoi Dieu ne peut pas vous guérir. Pourquoi? C'est qui l'auteur de cette théologie-là qui vous dit pourquoi Dieu ne peut pas vous guérir? Devinez, pensez quelques instants. Pourquoi vous pouvez acheter des livres? Pourquoi Dieu ne veut pas et pourquoi Dieu ne peut pas vous guérir? Devinez, c'est qui veut ça, que vous ne croyez pas que Dieu veut vous guérir? C'est le diable. C'est celui qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire. C'est lui qui ne veut pas que vous croyiez que Dieu veut vous guérir. Alors, c'est pour ça, quand on prie pour quelqu'un, si c'est ta volonté, Dieu dit, écoutez mon peuple, je vous ai déjà dit c'était quoi ma volonté. C'est écrit dans le livre. Lisez la Bible. Il dit qu'il guérit toutes vos maladies. Dans l'hébreu, toutes veut dire toutes. Il guérit toutes nos maladies. Et vous pouvez lire les versets après versets après versets. Et oui, c'est correct d'aller voir des médecins. On n'est pas contre la médecine. Tous ceux qui sont dans l'équipe de la guérison font partie de l'équipe de Dieu. OK? On croit dans ces choses-là. Mais on croit à la promesse que Dieu veut que son peuple, son corps soit en santé. On prie dans cette direction-là. Puis si vous avez des problèmes financiers, vous dites, oui, mais je suis en train d'en arracher, peut-être Dieu veut me détruire. J'ai un couple que j'ai connu. Quelqu'un avait fait une parole, avait donné une parole de malédiction. Vous allez perdre votre maison, vous allez perdre vos autos, vous allez faire ci, puis ça. Dieu veut vraiment faire de vous comme Job et vous appauvrir pour mille raisons. Ils ont cru le mensonge de l'ennemi, et puis là, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs autos. Puis là, après, ils me disent, mais on comprend pas pourquoi. Parce que vous avez cru la parole de l'homme au lieu de croire la parole de Dieu. Dieu dit, il va pouvoir tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Ça veut dire que Dieu veut prendre soin de ses enfants. Si vous avez des problèmes financiers, tournez-vous vers Dieu. Ne vous tournez pas vers l'homme qui va vous mentir. Ils vont faire toutes sortes de choses. Donc, on doit être une personne de foi. On doit être une compagnie de gens où on va dire, Seigneur, je crois ta parole avant de croire la parole de l'homme. Il y a d'autres choses que je voulais vous partager ce matin, mais je vais arrêter là. Il y a d'autres lois spirituelles. Si on peut juste dire, Seigneur, et c'est nouveau pour moi que je dois penser comme toi. Cette loi spirituelle que les pensées de l'homme sont vraiment, c'est ça qui va diriger sa vie, comme j'ai lu. Si c'est nouveau pour vous ce matin, qu'est-ce que je veux vous inviter à faire? C'est juste prier et demander au Seigneur. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Seigneur, révèle-moi cette chose-là. Que je puisse commencer à penser comme toi, tout simplement. C'est simple, hein? Si Dieu dit, je vous aime. Mais pensez pas que Dieu vous aime pas. Oh, je suis pas assez bon, moi. Dieu m'aime pas. Regarde comme je suis, là. Non. Dieu dit sur vous, je vous aime. Bon, ben, commencez à croire que Dieu vous aime. Commencez à penser comment Dieu vous aime. Prenez le temps chez vous, prenez votre place dans votre lazy boy et méditez sur comment Dieu tripe sur vous. Comment Dieu vous aime. Ah, Dieu m'aime tellement qu'il m'a donné une belle femme. Il m'a donné deux belles petites filles. J'ai une maison. J'ai deux autos. J'ai une belle famille d'église. Dieu m'aime pas mal. Je suis pas tout nu dans la rue. Je suis habillé. Gloire à Dieu. Je mange trois fois par jour. Dieu m'aime. Pensez à ces choses-là. Ah, ben là, je pense, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour finir la fin du mois? Là, on s'inquiète. Au lieu de méditer sur la bonté de Dieu. Amen. Dieu m'aime. Je sais pas, pensez aux autres promesses de Dieu. Méditez sur les promesses de Dieu. Quand vous allez méditer sur Dieu, et sur ses promesses, vous allez voir votre vie changer. Vous allez commencer à avoir des percées dans vos vies. Oh, j'aimerais ça que chaque personne ici, là, que vous puissiez dire, oui, Seigneur, je veux vraiment faire partie de cette compagnie de foi. Oh, même si ces choses terribles s'en viennent dans le monde, moi, je sais que pour moi, Seigneur, tu vas me protéger. pour moi, tu as une provision. Et quand l'enlèvement va avoir lieu, quand la trompette va sonner, je sais que je vais monter. Oh, gloire à Dieu, il y a des bons jours qui s'en viennent pour nous, enfants de Dieu. On peut marcher dans cette paix, dans cette joie. Quand le monde sont terrorisés, nous autres, on peut se réjouir. Et le monde va trouver qu'on est bizarre parce qu'on est trop content. Et on est trop dans la paix. Mais ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Parce que même si on est Canadien, on est des ambassadeurs de Christ et notre vraie maison est au ciel. Amen. Nous sommes des résidents du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais inviter l'équipe de la louange ce matin. On a juste touché une chose. J'avais d'autres pages de notes. Mais excusez-moi, j'ai pris trop de temps. Mais on pourrait regarder un autre deux heures, mais on fera pas comme le pasteur Mohamed Sanogo. Il prêche 6 heures. Mais je sais que vous êtes Québécois. J'adore. Je sais que votre Big Mac vous attend. Je vais vous relâcher. Mais on va chanter ensemble. Mais revenez la semaine prochaine. On va continuer dans des lois de Dieu. C'est pas des lois en passant pour nous donner des coups de bâton, là. Vous comprenez? C'est des lois spirituelles que Dieu nous donne. Si on peut juste les saisir, dire, maintenant, cette semaine, je vous mets au défi. Cette semaine. Pensez comme Dieu. OK? Quand il y a une pensée qui vient contre vous, une pensée qui vient vous dire comment Dieu va vous détruire ou comment le diable va vous détruire, commencez tout de suite, immédiatement. Arrêtez les pensées de l'ennemi et commencez à penser comme Dieu. Est-ce que vous allez faire ce matin? Et dans les jours à suivre? Allez-vous vraiment vous engager à dire, moi, cette semaine, je vais penser comme Dieu? Ça peut être un défi parce que vous risquez d'avoir des fois des défis, là, aussi, qui vont se rajouter pour vous faire douter. OK? L'ennemi, sa job, c'est de vous faire douter. Mais restez attachés à Dieu. Restez attachés aux promesses de Dieu. Croyez Dieu malgré les circonstances. Et marchez dans la joie de l'Éternel. Marchez dans la vie abondante que Dieu en réserve pour vous. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.